この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
C'était à Mangazure, on le précise.
Exclu Mouteki.
Exclu Mouteki, donc l'interview de Monsieur Vincent Ropion. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vous.
Et on est très heureux de vous recevoir ici sur l'antenne de Mouteki, mais surtout on est très content de vous voir ici au Mangazure. Et qu'est-ce que jusqu'à présent vous avez pensé de l'ambiance un petit peu de cette convention?
Ben, j'adore, très sympa avec j'adore ce palais, ce salon avec plusieurs étages, c'est très classe et les gens adorables. Alors, donc en général dans les conventions, évidemment la plupart des fans sont toujours très gentils, mais là particulièrement je trouve.
Et d'ailleurs, est-ce qu'ils vous reconnaissent?
Physiquement?
Oui, physiquement.
Absolument pas.
Absolument pas.
C'est ça qui est drôle. C'est ce que j'expliquais.
Je me souviens d'un article il y a quoi, une 10-15 d'années dans Animeland, justement, oui, déjà à l'époque. Et quand je vous ai vu tout à l'heure, je me suis dit, c'est lui, c'est Vincent Ropion, absolument aucun doute possible. Ça n'est pas arrivé.
C'est un spécialiste, c'est pour ça, parce que vous lisez Animeland, mais là, par exemple, c'était très marrant parce que pour rentrer dans le salon, il a fallu que j'aille chercher ma petite carte VIP. Donc j'ai dépassé la queue, personne ne me reconnaît. Et après, quand je m'installe à mon stand de dédicace avec quelques photos de ce que j'ai doublé, alors là, d'un seul coup, auparavant, non, parce qu'ils ne connaissent pas mon visage. Je suis comédien, mais je fais en particulier du doublage. J'ai un peu tourné à une époque, mais bon, voilà, je ne suis pas une star du tout. Physiquement, on ne me reconnaît pas. En revanche, ce qui m'arrive parfois, et ça me fait toujours très plaisir, c'est que à la Fnac ou dans les boutiques, je demande un renseignement et des personnes me font « Ah, je connais votre voix !»
Ça me... Vous avez entendu quelque part.
Voilà. Oui, je vous ai entendu quelque part, mais où? Ah, oui, merci beaucoup. Enfin bon, moi, je fais toujours plaisir. C'est vrai, c'est petite.
On va parler évidemment de votre carrière au théâtre, au cinéma aussi. Mais c'est vrai qu'ici, les gens vous connaissent beaucoup pour les voix de dessins animés et aussi quelques voix de jeux vidéo également.
Oui, oui, oui.
Et il n'y a pas des gens qui viennent vous dire oh, les gens, ils ne sont pas lourdingues à vous demander tout le temps des imitations de Nicky Larson, des choses comme ça, non?
Non. Ça puis va, d'abord, ils me le demandent pas trop. Et non. Puis, en revanche, quand ils me demandent de refaire la voix de Nicky Larson, qui est ma voix d'ailleurs, un peu plus jouée dans le côté héros, un peu plus grave, et puis dans les aigus quand il part dans les extrêmes de folie, mais ils veulent souvent que je le refasse en me filmant. Et je refuse parce que je dis non. D'abord, on est ridicule quand on fait ça. Et puis ça casse. L'image de Nicky Larson, c'est sur le dessin animé. Alors moi, je vais bien le refaire comme vous, sur un micro, et on reconnaît après la voix, mais après, sur le physique, c'est pas intéressant. En revanche, après, c'est quand je joue au théâtre, quand si je tourne, c'est autre chose, mais...
Voilà.
Bah, vous voyez, c'est comme si on vous disait, allez, refaites-moi le canard, là, vous faites bien le canard.
Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois très bien. Bah, tiens, justement, on parle de votre canard, c'est vous qui faites aussi un ami à Titeuf.
Ah oui, oui, c'est François.
C'est François.
C'est François qui est très intellectuel. Exactement. Et toujours un petit peu focus.
Quelle liberté vous avez justement pour composer la musique de vos voix justement?
Oui, à l'époque on avait une liberté extraordinaire, totale. Notamment dans les mangas qu'on faisait pour le Club Dorothée, le Collège Foufoufou, Ranma & Me, Nicky Larson. Maintenant, on a un peu moins de liberté. Parfois, Titeuf, c'est allé encore. On avait pas mal de liberté, mais il y a beaucoup de dessins animés. Par exemple, si on veut faire un accent marseillais ou un accent alsacien. Ah non, attention, ça va être c'est connoté, il faut pas faire d'accent parce que...
Alors, plus encadré.
Voilà, c'est beaucoup plus encadré, on a moins de liberté et surtout... Pour les derniers 35 DreamWorks et tout ça, alors là, faut faire très attention que ce soit fidèle à l'original. On n'a plus du tout de liberté, mais on peut s'abuser quand même.
Oui, j'allais dire, il y a quand même au moins moyen de pouvoir avoir une certaine, j'allais dire, plage d'improvisation, même si le texte, lui, est donné. Non, il n'y a absolument
pas. Non, il n'y a plus. Non. Un DreamWorks, il n'y a aucune plage d'improvisation.
Bah, c'est vraiment devenu calibré.
Totalement calibré. Ouais. C'est-à-dire que le doublage italien sera comme le français, sera comme l'espagnol, dans le même esprit, même sentiment.
Et du coup, si la prise n'est pas bonne, on la refait.
Ah, oui.
Voilà, vraiment. Ouais. Systématiquement, si ça ne va pas.
On est tout seul, on fait toutes nos scènes tout seul, personnage après personnage, donc c'est plus du tout comme avant.
Ah, vous n'êtes plus en communauté comme c'était le cas avant.
Non. Ouais. Donc ça, c'est un peu triste. Alors parfois, oui, je continue à dire que ils sont très très beaux, ces doublages, hein, c'est parfait, tout ça, mais il manque peut-être une petite énergie et une petite folie que certains, même Disney, avaient, comme Bernard et Bianca, Robin des Bois, qui étaient doublés par les grands, Roger Carrel, Francis Lax, qui inventer véritablement quelque chose. Et c'est plus le cas.
Et alors du coup, juste pour en terminer avec cette époque-là, justement des dessins animés, moi j'avais beaucoup entendu en fait d'échos, alors forcément c'est des échos, donc je viens vérifier auprès de gens qui ont vraiment été dans les studios, des gens qui disaient, bah, de toute façon ces dessins animés, en quelque sorte c'est juste pour les enfants, avec un air un peu dédaigneux, donc faites ce que vous voulez d'une certaine façon. Est-ce que c'était un peu dans cet état d'esprit-là ou...
les mangas pour le Club Dorothée?
Oui, à l'époque, vraiment dans les années 80
en tout début. Non, c'est pas ça, c'était des dessins animés qui n'étaient pas pour les enfants. C'est ça le problème, c'est que Dickie Larson, ce n'était pas du tout pour les enfants. Ça passait, je sais parce que des Japonais sont venus un jour sur le plateau et ils nous ont dit que ça passait à 19h.
C'est ado quoi. Enfin,
voilà, c'est ado.
Même les mangas sont classés dans la catégorie
totalement.
Ce qu'on appelle seinen, c'est-à-dire adolescent mûr.
Voilà. Donc il y avait un petit peu d'érotisme, il y avait un petit peu de violence. Avec... Et alors, notamment le directeur de plateau, Maurice Sarfati, qui faisait tous les méchants avec la grosse boulette. Et toutes ces choses-là. Pourquoi il disait par exemple je vais te lancer ma grosse poulette? Parce que lui, voyant la violence de ce dessin animé, se disant c'est pour des enfants, on peut pas dire. Donc c'est lui qui changeait le texte consciemment, il prenait la décision. On peut pas dire je vais te tuer, Dickie Larson. Il disait je vais te lancer ma grosse boulette pour détourner la violence. Et du coup, ça a donné un truc culte que tout le monde a adoré, mais c'était pas les clients qui avaient décidé, c'était nous sur le plateau.
Et alors, est-ce qu'il y a eu un rapport de force en disant peut-être que les producteurs, je sais pas, se sont dit essayez de rester un peu fidèles?
Non, parce qu'ils n'avaient aucun regard, ils ne vérifiaient rien. On coupait même des scènes. Il y avait des scènes qu'on coupait qui étaient trop érotiques et on leur envoyait et diffusait.
C'était votre responsabilité de couper les
scènes. Le directeur artistique, surtout. Bien sûr. C'était fou parce que même certaines fois, on ne voyait pas la scène avant d'enregistrer. On enregistrait directement et on improvisait. Ce qui fait qu'un jour, ce Maurice Sarfati est totalement fou, il doublait un méchant et ça s'est devenu culte aussi, cet épisode où et comme il n'avait pas vu la scène, il meurt, il fait un méchant, il fait ah je meurs, et le personnage se relève, il fait ah non je ne suis pas mort, ouais. Ah si je meurs, et ça, et les gens avaient adoré. Pourquoi? Parce que c'était en somme un peu comme alors je sais pas, c'est pas de la prétention, mais pas quand même rapprocher ça à la comédie de l'art, mais il y a un petit côté quand même.
Ça donnait de la bouffonnerie,
voilà,
à la scène.
De la bouffonnerie. Et ça a donné quelque chose, finalement, parce qu'on était tous comédiens, où on s'est amusé à faire un truc de grand n'importe quoi.
Vous, c'est un univers que vous connaissez depuis un âge relativement jeune, en plus. Et vous étiez extrêmement jeune pour Candy, par exemple.
Oui, j'avais 13 ans. Et là, je vais avoir. J'ai 55 ans. Alors, ça fait donc 42 ans. 42 ans de carrière, j'ai un ami, Christophe Lemoine, qui m'a dit « Tu vas bientôt dépasser Charles Aznavour dans ta carrière de doublage. » Mais c'est fou, ça c'est terrifiant. Oui, j'ai commencé à 13 ans. Alors évidemment, et mon premier rôle, alors j'ai le souvenir très précis, parce que c'est ma maman qui m'avait mis là-dedans, mais qui n'était pas du tout dans le métier, mais qui avait téléphoné, c'est comme mon agent, qui avait téléphoné partout pour que je fasse ça. Elle était incroyable.
Vous y étiez du théâtre, non?
Oui, j'ai fait du théâtre à partir de 11 ans, mais aussi grâce à ma maman. Puis après, elle m'a dit, mais tiens, je vais te mettre dans le doublage. Donc elle a payé les boîtes de doublage. Et alors, on lui disait, mais il en a déjà fait. Oui, il en a déjà fait. J'ai débarqué sur c'était un western, je me souviens très bien, un 35, un cinéma. Et là, j'ai débarqué sur le plateau, j'ai vu cette bande défiler avec tout le texte. Et ils m'ont dit, donc ça va, tu en as déjà fait? Oui. Tu peux prendre l'accent mexicain? J'ai fait un petit mexicain, je suis oui. Et j'ai fait l'accent mexicain. Bon, voilà. Mais parce que je m'amusais quand j'étais petit, à 18, 10 ans, je lisais des bandes dessinées, puis je lisais à voix haute.
Oui.
Et je m'amusais à faire des accents, un truc. Donc voilà. C'est pas pour rien non plus.
coup, on a parlé de l'évolution en termes de studio, en termes de d'enregistrement. Et techniquement, comment vous voyez justement l'évolution du métier de comédien de doublage?
Techniquement.
Ouais.
Techniquement, là, c'est...
Plus techniquement...
Ouais. C'est, on a toujours la bande rythmo.
C'est la bande rythmo. C'est le grand...
Voilà, c'est le truc qu'on a en France qui est assez formidable, que les Italiens n'ont pas. Ils sont toujours...
C'est spécifique à nous, en plus.
Ah oui, c'est spécifique en France et en Espagne, je crois. Mais en Allemagne, en Italie, ils ont le texte écrit sur un papier et ils ont des mini-séquences avec un bip ou un timecode et ils doivent... Donc c'est beaucoup plus difficile pour eux. Nous, on a cette bande, comme un karaoké, qui défile et on peut voir l'image en même temps. Donc c'est très, très, très agréable à pratiquer. Après, on avait, moi, quand j'ai commencé à 13 ans, donc, c'était en 76, on avait de la pellicule. Donc on appelait ça des boucles, parce que la pellicule, donc c'était une copie pellicule, 35 ou 16, qui était en boucle et qui repassait, qui repassait, qui repassait. Donc c'était très long. On enregistrait, allez, un long métrage sur une semaine. On était tous ensemble en plus. Là maintenant, tout est numérique. Alors, on va sauter d'un épisode de série à un autre, d'une scène à une autre, on va refaire, on se trompe, on vient en arrière à toute vitesse, alors qu'avant, on avait des scènes, des boucles, qui faisaient 2-3 minutes, donc on la voyait, après on la faisait. Si on se plantait, elle repassait entièrement, on n'allait pas en avant et en arrière. Donc on a fait un gain de temps considérable. Mais bon, il y a aussi un intérêt et un défaut, c'est-à-dire que maintenant on va très très vite. Avant on prenait le temps, alors quand on se trompait, bon, on la revoyait du coup, et en commençant on la revoyait encore, et du coup, moi je trouve, hein, les doublages des années 70 étaient extraordinaires.
C'est une chose qu'on n'a pas vraiment vu dans les années, peut-être pas forcément dans les années 80 pour les dessins animés, puisque c'était plutôt la cadence, puisqu'il y avait quand même, quoi, il y avait une huitaine de nouveaux dessins animés chaque année, toutes chaînes confondues.
Oui, c'était 87. Oui,
c'était presque de l'abattage à ce niveau-là. Vous n'aviez pas le temps de vous retourner sur telle ou telle erreur de doublage, ou au contraire, vous aviez peut-être au contraire le...
Non, ça a été un peu de l'abattage. C'est vrai, voilà. Que le Club Dorothée, tout ça, ça a été... On faisait ça très très vite. Mais là, déjà, c'était l'ère de la vidéo. Donc, il y avait plus ce problème de boucle et de pellicule. Donc, déjà, la vidéo, c'était un gain de temps. Mais c'était de l'abattage, oui. Alors après, on a peut-être parfois... pas vraiment fait de la qualité, faut bien le dire, mais comme on travaillait très vite et dans un certain dynamisme, ça a donné aussi quelque chose de qu'on ne retrouve peut-être plus maintenant.
Je vois.
C'est-à-dire une espèce de spontanéité, parce qu'on était au taquet et on se faisait rire, surtout parce qu'on était, encore une fois, maintenant. L'autre jour, j'ai fait un manga, par exemple, pour une chaîne de manga, j'étais tout seul. J'ai fait 5, 6, 7, 8 épisodes tout seul. Donc c'est bien, mais bon... Alors que quand vous êtes plusieurs comédiens, eh ben, vous vous faites rire, vous jouez pour l'autre, puis vous avez une réplique, et bien une joute, quoi. Et ça donne un autre résultat.
Il y a plus cet échange qui existait, effectivement. Qu'on retrouve au théâtre, d'ailleurs, justement.
Absolument.
Et justement, est-ce que ça vous fait, d'une certaine façon, l'équilibre se fait peut-être ainsi? Vous êtes comédien de doublage une partie du temps, et le reste du temps, vous êtes au théâtre. Est-ce qu'on peut décrire la chose comme ça, ou alors c'est absolument pas ça?
Ah si, c'est
vraiment
ça.
D'accord.
Alors, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, je ne joue pas au théâtre, mais effectivement, il fut un temps où je doublais, je répétais, je jouais au théâtre le soir, je tournais après quelques jours de tournage, tout ça. Mais moi, j'adore ça. C'est notre métier, de la radio, des pubs, voilà. De toute façon, au théâtre, on s'éclate toujours plus qu'au doublage, c'est évident. Sauf sur des pièces qui n'ont pas d'intérêt, parce que ça peut arriver aussi. On peut le plaisir de jouer au théâtre est tellement fort, c'est vraiment un plaisir pas financier. Hein. Le théâtre, ça ne ramène pas beaucoup d'argent, hein, non, c'est loin de là. Donc c'est vraiment un plaisir, c'est le plaisir du comédien, mais parfois une pièce, elle n'est pas non plus extraordinaire, on peut s'en lasser. Et jouer tous les soirs, ça peut être une pièce, au bout d'un moment, on peut se dire finalement elle n'est pas terrible et s'ennuyer à jouer. Mais c'est assez rare. Donc on prend plus de plaisir pour un comédien à jouer au théâtre qu'à faire du doublage. Mais parfois, au doublage, il y a des rôles qui sont tellement agréables à faire et des acteurs tellement agréables à doubler. On donne tellement de soi pour que faire un bon boulot avec le directeur artistique, avec les autres comédiens, que c'est un vrai kiff. Après, c'est comme une troupe de théâtre, le doublage. C'est pareil, une vraie troupe de théâtre. Vous jouez un premier rôle dans une pièce, et après, dans l'autre pièce, vous allez jouer un second rôle. Et c'est pas grave, il n'y a pas de starisation. Et au doublage, il m'arrive de faire des premiers rôles, et puis le lendemain, d'avoir, comme on dit, 10 lignes ou 20 lignes. Mais c'est pas grave. Francis Lax qui disait ça. Il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits chèques.
Voilà. Comment s'est fait de la, j'allais dire la rencontre, mais en tout cas la mise en relation qui fait que vous êtes la voix de Dominique Monaghan?
J'ai fait des essais pour Le Seigneur des Anneaux.
Ça, c'était par Le Seigneur des Anneaux, d'accord.
Voilà.
Avant Lost, alors voilà.
Avant Lost. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait des essais, j'ai eu la chance d'être choisi. Et après, on ne garde pas toujours les comédiens qu'on a doublés, hein. Mais c'est vrai que pour Lost, je n'ai même pas passé d'essai, ça a été d'office moi qui l'ai fait. Après, j'ai fait une autre série qui s'appelait Flash Forward, un truc comme ça. Et il a fait des guests aussi dans les séries. Et j'ai fait un téléfilm. Et il y a une série qui, il n'y a pas longtemps, là, on m'a appelé et j'ai repassé des essais. Alors j'ai dit, mais pourquoi je l'ai toujours fait? Ils m'ont dit, mais parce que la chaîne, 13e rue, je crois, veulent faire les essais. Et j'ai été pris, Dieu merci. Et voilà, donc on n'est jamais sûr de rien. Même si on double depuis longtemps un comédien qu'on aime bien, eh ben, il peut nous échapper, c'est comme ça.
Deux toutes petites dernières qui sont assez rapides, est-ce que vous l'avez rencontré justement, Dominique Monaghan? Oui.
Ouais. Ouais,
c'est pas évident, certains comédiens n'arrivent pas à rencontrer leur vis-à-vis.
Moi j'ai eu la chance parce que pour Lost, ils avaient fait une grande soirée à TF1 et donc les Américains étaient là. Et très sympa, il fait exactement la même taille que moi. on est vraiment des hobbits tous les deux. Oui.
La dernière question, elle concerne évidemment Nicky Larson. Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque il a fallu, j'allais dire, rempiler pour faire Angel Heart, qui est alors du coup beaucoup plus assumé polar. Dans quel état d'esprit vous vous êtes retrouvé? Est-ce que vous avez repris les bases que vous aviez ou est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez retravailler le personnage?
Ah non, mais pas retravailler, mais c'était... Non, Nicky Larson, c'est pas non plus... T'es laissé Williams, donc...
C'est ressort sur les mêmes, oui, d'accord, mais...
Oui, on retravaille pas, c'est un truc, voilà, ça se fait dans... Non, j'étais un peu déçu parce que justement ils l'ont appelé Rio, c'est plus Nicky Larson, donc autant voir la VO à ce moment-là. Mammouth, c'était pareil, c'était pas le vrai nom. On pouvait plus faire n'importe quoi, c'était pas le vrai Nicky Larson.
Et tout, c'est moins drôle, quoi.
Mais c'est bien sûr que c'est moins drôle. Et tous les fans qui se souviennent de Nicky Larson me disent, ah alors c'est moins bien, voilà. Donc moi j'ai rien pu faire parce que j'étais dirigé par un directeur artistique qui m'a dit non, on a des consignes, faut être comme l'original. Je sais pas, oui, mais c'est moins drôle, voilà, sinon faut le laisser en VO. Mais ça a failli partir en Belgique, alors être doublé parce que ça coûte moins cher de bosser en Belgique. Et donc, là où j'étais très content, c'est que c'est venu aux oreilles des fans, et tous les fans, et là je les remercie, m'ont aidé, ils ont envahi de mails. Donc je crois que c'était pour quelle chaîne, je sais plus, peut-être Manga Plus, truc comme ça, mais ils ont envahi de mails. Si c'est pas Vincent Ropion, on ne regardera pas la série. Donc je les remercie.
Juste comme ça, encore pour embêter encore un peu à la Colombo, si vous voulez, encore une dernière. La spécificité du doublage pour les jeux vidéo, parce que là pour le coup on est sur des dialogues qui sont générés par l'ordinateur selon les actions du personnage. Donc là, c'est complètement... ça se fait comme des scénettes de théâtre, comme ça, à vide ou...
Ah non, pas du tout. Non, le jeu vidéo, alors c'est pas très, très rigolo, parce que... Ça dépend encore du personnage. Mais on est tout seul, dans une cabine, et on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de fichiers, ce qu'on appelle des fichiers, pour que dans un jeu vidéo, évidemment, comme ça change, la situation change par rapport au joueur, et à ce qu'il décide. Donc voilà, et on n'a pas de réplique. Parfois, alors si on est bien dirigé, on a une réplique, on sait dans quelle situation, mais parfois le directeur ne sait pas comment le dire, si c'est en colère, si c'est fort, si c'est hurlé, si c'est amoureux. Donc c'est pas très marrant.
Et vous recevez la phrase de manière neutre alors au final.
On entend l'anglais, s'il y a un anglais, puis on essaie, voilà, puis on a un temps pareil comme au doublage, mais alors avec une espèce de mesure numérique. C'est pas très 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 sympa à faire, non. Non.
C'est pas très ergonomique, on va dire, pour la fin, voilà, d'accord. Je vous remercie beaucoup.
Et moi aussi, je vous remercie. Merci.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM.